Serge Tizi. Aujourd'hui, il est question de la dynamique des États-Unis.
Bonjour, chers lycéens, lycéennes, auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral Manosque qui m'écoutez aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de la dynamique des territoires des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire de la façon dont s'organise ce grand territoire américain, états-unien, comme on l'appelle. Et je vous invite à regarder sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, une carte de la dynamique économique des États-Unis d'Amérique, et vous verrez à ce moment-là sur le territoire américain comment cela s'organise. Alors je vais parler donc pour les élèves et pour la construction d'une carte, donc il y a des codes. On va d'abord parler de la région du nord-est des États-Unis, c'est-à-dire celle qui va grosso modo de Washington DC jusqu'à Chicago en passant par Boston et la frontière avec le Canada. Donc cette région on l'appelle le nord-est des États-Unis, c'est ce qu'on a appelé aussi la Manufacturing Belt, c'est-à-dire la zone industrielle, la première zone industrielle américaine. Pourquoi ? Bien parce que c'est là qu'est, en même temps qu'est née la nation américaine. Je rappelle que ce sont des immigrants européens qui sont venus peupler les États-Unis d'Amérique, qu'ils étaient pas tous anglais d'ailleurs, il y avait beaucoup d'Allemands, de Français, d'Écossais, d'Irlandais, mais par la suite des Italiens, des Européens de l'Est, donc ils sont venus peupler ce pays. Donc cette région est donc le cœur industriel, c'est là qu'est née la révolution industrielle à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle. Pourquoi ? Parce que il y avait tout là pour que l'industrie se développe, c'est-à-dire qu'il y avait du charbon comme source énergétique, il y avait aussi du fer et de l'acier, et comme vous le savez déjà, eh bien la révolution industrielle est venue de cette adjonction du charbon, de l'acier, et puis ensuite, par la suite, des moteurs à explosion et de l'électricité. Bref, tout est là dans le nord-est américain pour faire cette première révolution industrielle, ou ces deux premières révolutions industrielles. Donc, ce cœur industriel était marqué, bien sûr, par une industrie lourde, par des mines de charbon, par les mines de fer, mais surtout, ne l'oublions pas, par l'un des symboles de ce développement américain, qui a été l'automobile, et notamment avec la grande ville de Détroit, et puis qui a été la capitale de l'automobile nord-américaine, voire même à un moment donné, même mondiale, donc où des villes comme Chicago avec les machines agricoles. Donc, ce nord-est américain, eh bien, il est marqué par surtout la présence sur la côte atlantique de ce qu'on appelle la mégalopolis. La mégalopolis, c'est une zone urbaine qui va de Washington DC au sud à Boston au nord, en prenant bien sûr au centre la ville de New York. Et cette mégalopolis, c'est dans cet espace parce que se concentrent la plupart des grands sièges sociaux, des grandes firmes transnationales nord-américaines, ou des succursales des firmes transnationales mondiales, puisque Big Apple, c'est-à-dire le surnom qu'on donne à New York, est non seulement la ville de la plus grande place boursière mondiale, avec Wall Street, mais aussi, avec Manhattan et ses grands immeubles et ses grands gratte-ciels, et bien aussi une capitale à la fois architecturale, économique et bien sûr plus une tour est belle et bien agencée, plus elle montre la puissance de la firme qui la possède ou de la personne qui la possède quand c'est le cas. N'oubliez pas non plus que la mégalopolis est aussi le grand espace des grandes universités américaines qui font souvent rêver les lycéens français par les campus que nous y voyons. C'est les campus de Harvard, c'est les campus de Princeton, de Yale, c'est le Massachusetts Institute of Technology, au sud de Boston, qui sont avec d'autres universités dont je parlerai par la suite plus californiennes, les plus réputées au monde, avec bien sûr Oxford et Cambridge. Les Britanniques. Dans cette mégalopolis, donc, se concentrent tous les pouvoirs décisionnels économiques avec la bourse, donc ça je l'ai déjà dit, mais aussi les agences de notation, la culture, c'est là que l'on fait les nouvelles, les nouveautés au niveau de la mode, c'est là où on fait les nouveautés au niveau du cinéma ou de la télévision ou des médias. Donc c'est là qu'ont été inventés Internet. Donc c'est un cœur politique décisionnel. C'est aussi politiquement le cœur politique, puisque, n'est-ce pas, nous avons bien sûr Washington. Attention, hein, je répète, nous sommes dans un État fédéral qui où règne surtout le Congrès américain. Le président des États-Unis a un pouvoir, certes, mais il est surtout contrôlé par le Congrès. Et le Congrès, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui vote les budgets, c'est lui, voilà. Donc quand on a un Congrès républicain, on a la politique à l'heure actuelle, et quand on a un Congrès démocrate, on a une politique qu'on avait avant avec Monsieur Obama. Donc, ce gouvernement, c'est lui qui décide de la politique intérieure, c'est lui qui décide aussi des subventions agricoles, c'est lui qui décide aussi des subventions aux lobbies militaro-industriels, tels que les nommait le feu président Eisenhower. Donc, en dehors de cette mégalopolis, donc dans ce nord-est, c'est une région qui est aussi dominée par une autre ville, celle de Chicago. Chicago, c'est un des cœurs industriels de ce nord-est des États-Unis. Ce n'est pas seulement la ville des Blues Brothers ou d'Al Capone, c'est aussi une ville qui est marquée par l'emprise de l'agroalimentaire, puisqu'elle est au débouché d'un canal qui mène jusqu'au Mississippi et donc aux Grandes Plaines. Et donc, tout naturellement, Chicago, étant donné que c'est un port, ça peut vous sembler bizarre à ceux qui ne connaissent pas la ville, mais c'est un port qui est sur les Grands Lacs. Ces Grands Lacs ont un débouché avec des canaux qui ont été construits vers l'Atlantique par le Saint-Laurent, dans ce qu'on appelle aussi la région de la Main Street, dont je parlerai par la suite. Et Chicago est tout naturellement devenue, eh bien, la capitale des produits alimentaires. La bourse de Chicago fixe le prix du blé et du soja au niveau mondial. Et c'est aussi, par la même occasion, le siège social de McDonald's, de Hertz et de Kraft Foods, Mondelez par exemple, qui possède notamment, ou qui possédait plutôt, l'entreprise Lu. C'est aussi une école architecturale avec ses buildings, son urbanisme. C'est aussi une école économique, pardonnez-moi, ou politico-économique, puisque c'est à Chicago qu'a régné ce qu'on appelle l'école de Chicago ultralibérale. Donc, jusque dans les années 70, 80, 90, et qui rayonne encore dans certaines têtes de certaines personnes. Donc, entre ces deux espaces, eh bien, ce sont des régions qu'on appelle désormais la Rust Belt, c'est-à-dire ces villes comme Détroit qui ont vu leur économie s'effondrer, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des quartiers en désindustrialisation, avec un appauvrissement des populations, notamment noires américaines, qui, elles, ne peuvent pas sortir de leur ghetto comme le chantait Elvis Presley dans les années 70. Donc nous avons ici pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi? Eh bien, ça s'est passé ainsi comme ça s'est passé dans d'autres régions. Hein, pensez toujours au nord de la France ou à l'est de la France ou à la région parisienne. Donc vous avez une concurrence mondiale, une concurrence salariale, une concurrence entre ouvriers, c'est-à-dire que les patrons d'entreprise, ceux qui financent les entreprises, ont trouvé meilleur marché que l'ouvrier syndiqué du nord-est des États-Unis. Ils ont trouvé, ils ont délocalisé, ils n'ont pas délocalisé obligatoirement à l'autre bout du monde, ils ont délocalisé dans des zones rurales comme la Géorgie autour d'Atlanta, ils ont délocalisé aussi vers le Mexique et sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et j'en arrive donc à ma deuxième partie. C'est une région que l'on colorie généralement sur une carte en jaune, qu'on appelle la région la Sun Belt, la région du soleil, la région la plus dynamique, ou la seconde région la plus dynamique des États-Unis, voire pour certains domaines, la plus dynamique. Donc cette région va de Seattle, donc à la frontière avec le Canada, juste en face de Vancouver, au nord-ouest, et elle va jusqu'à Atlanta, en Géorgie, qui est, je rappelle, la capitale de Coca-Cola. En passant, bien sûr, par la Californie, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Texas et la Floride avec la Louisiane. Alors, C'est originellement, en tout cas pour la Californie, c'est originellement une région de chargeurs d'or, d'éleveurs à l'origine, après bien sûr avoir massacré tous les Indiens qui avaient résidé avant la venue des Européens. Ces régions, ces villes, n'avaient pas grand intérêt avant la découverte du pétrole au Texas à la fin du 19e siècle. Le cinéma s'est installé véritablement à Hollywood qu'après la Première Guerre mondiale. C'est en fait la grande misère issue du Dust Bowl, puis la Grande Dépression des années 30, qui ont poussé un certain nombre de miséreux à aller vers l'Ouest américain et notamment en Californie. C'est véritablement la Deuxième Guerre mondiale qui enclenche le processus industriel de la Sun Belt. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à ce moment-là, il y a deux fronts. Alors, il y a le front à l'Est, hein, côté Atlantique, donc ça c'est contre les nazis, pour soutenir Winston Churchill, donc ça c'est acté et c'est fait, mais il fallait transporter en fait les industries vers l'ouest, c'est-à-dire contre les Japonais sur la façade pacifique. Et donc cette industrialisation de la Californie, cette industrialisation du Texas aussi, eh bien s'est déroulée à partir de la Deuxième Guerre mondiale pour des raisons stratégiques qui ont été ensuite durant la guerre froide continuées. Pourquoi ? Bah parce que les Américains avaient peur d'attaques nucléaires, ils s'étaient dit si on concentre toutes nos entreprises dans le nord-est et que les soviétiques nous envoient des bombes atomiques dans le nord-ouest, on n'a plus rien pour riposter, donc il faut étaler nos industries un peu partout. Donc alors ça amène à quoi ? Eh bien ça amène à une situation industrielle où par exemple vous avez des villes qui se sont spécialisées, qui se sont tournées vers des secteurs économiques. Alors bien sûr vous avez Seattle par exemple face à Vancouver sur la façade pacifique qui s'est spécialisée dans l'aéronautique puisque c'est véritablement la capitale de Boeing. Vous avez aussi San Diego, par exemple, où se sont développées des constructions navales avec pourquoi ? Parce que c'est là que vous avez une partie de la flotte américaine qui devait aussi refaire une santé après la bataille de Pearl Harbor. Donc on a en fait des villes qui rayonnent. Ces villes qui rayonnent, bien sûr, c'est la plus importante de la côte californienne et donc de la Sun Belt, c'est bien sûr Los Angeles, qui est la grande capitale économique de cette côte ouest américaine, suivie de près par San Francisco. San Francisco, au bord de laquelle vous avez au sud-ouest de San Francisco, la Silicon Valley, bien connue de tous, puisque c'est là qu'il y a les Facebook et compagnie. Pourquoi est-ce qu'ils sont là, Google et tous les GAFAM, pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Eh bien parce que vous avez deux grandes prestigieuses universités dans la baie de San Francisco. Vous avez Berkeley de l'autre côté de la baie, vous avez Stanford de l'autre côté de la baie, côté aéroport. Donc, et en plus de ça, vous avez UCLA, donc l'université de Californie Los Angeles, qui est au sud et qui apporte aussi son lot d'expérience et de savants et de techniciens en tout genre pour aller venir alimenter les besoins de cette nette économie qui est, je le rappelle, liée au secteur industriel et militaire américain. Internet, c'est une invention pour l'armée américaine qui est devenue civile par la suite, mais le départ, c'est quand même l'armée américaine et pouvoir vaincre les armées soviétiques à l'époque de la guerre froide. Donc la conquête spatiale plus cette guerre froide, ont permis aussi le développement de villes qui au départ n'étaient pas véritablement vouées à ça. Houston au Texas, Dallas, c'est là que se sont développés notamment tout l'appareil pour la NASA, tout aussi les calculettes, puisqu'il fallait tout le calculer. Pour atteindre la Lune. Donc cette conquête spatiale a permis le développement de cette industrie de haute technologie par l'espace. Et bien sûr, puisque on en arrive donc à la conquête spatiale, on fermera le banc donc avec la Floride et notamment Cap Canaveral et ses lancements désormais de satellites, puisque désormais les navettes ne sont plus lancées à partir de cette base-là. Donc Dans cette région de la Sun Belt, vous avez une région qui est un peu particulière, c'est la région de la frontière mexicaine et américaine, ce qu'on appelle des maquiladoras. Alors les maquiladoras, ce sont des développements d'usines jumelles de part et d'autre de la frontière. Pourquoi ? Bah parce que aux États-Unis, un ouvrier gagne 8 fois ce que gagne une ouvrière au Mexique. Donc qu'est-ce que font les industries américaines et qu'est-ce que font aussi les autres industries, par exemple les Japonais, les Coréens, eh bien ils font quelque chose d'un peu spécial, ils le font depuis les années 60, eh bien ils installent des usines de pièces détachées, en règle générale hein, c'était comme ça que ça se passait, ils installaient les usines de pièces détachées où on ne demande pas véritablement une grande valeur dans la main d'œuvre, donc du côté mexicain. Là principalement c'était des femmes qui travaillaient. Pourquoi des femmes? Parce qu'une femme eh bien elle fait pas grève, parce qu'une femme elle pense à nourrir ses enfants, donc elle va pas faire grève. Donc et au nord, donc côté américain, vous aviez des usines de montage, de finition, dans laquelle on pouvait voir le mari de la femme mexicaine hein, travailler, mais aussi des Américains qui étaient généralement payés 8 fois le salaire, je répète, de ce qui était versé au Mexique. Et donc à partir de ce moment-là, on pouvait avoir un automobile Ford ou voire même Toyota avec le tampon Made in USA sous prétexte qu'en fait le véhicule avait été monté en fait aux États-Unis. Alors que les pièces elles venaient en fait véritablement du Mexique. Donc faites attention, ce n'est pas une frontière aussi fermée que l'on voudrait bien nous faire croire. C'est vrai que depuis George Bush et maintenant avec Monsieur Trump, on a un mur qui se construit et qui s'achève. Mais il faut pas oublier que c'est la frontière la plus dynamique d'Amérique du Nord. C'est là qu'il y a le plus de passages par jour, bien plus qu'entre le Canada et les États-Unis, qui sont bien plus ouverts aux migrations, en tout cas entre Canadiens et Américains. Donc je fermerai le banc dans la Sun Belt, par la Louisiane, avec ses ports d'entrée. Mais le problème de la Louisiane, c'est que c'est un territoire qui a été ravagé hein, par un ouragan qui a véritablement du mal à se reconstruire. Alors certes, il y a son carnaval, certes, il y a son petit charme français. Quand vous allez dans certains quartiers, dans un quartier de Baton Rouge, vous voyez encore des choses françaises un peu rigolotes. Mais enfin, mis à par ça et nos cousins cajuns et leur musique, c'est un espace qui appartient à la Sun Belt parce qu'elle est dans la Sun Belt. Hein. Donc n'oubliez pas quand même quelque chose, c'est le caractère fondamental dans cette région de la Californie, de l'Oregon, de cette façade pacifique. Pour une raison, c'est que la façade pacifique est aujourd'hui face à l'atelier du monde, au nouveau centre du monde, qui est le Pacifique et qui n'est plus l'Atlantique. Donc le centre du pays maintenant, le centre du pays, on peut le diviser en deux parties. Alors à l'est du Mississippi, je colorierai ça moi en vert clair, ce sont en fait ce qu'on appelle, grosso modo c'est l'est du Mississippi, mais vous avez une partie du Missouri avec, c'est l'est, ce sont ce qu'on appelle les grandes plaines agricoles. Alors on ne parle plus de Belt, Corn Belt et compagnie, tout ça c'est bien fini, on est beaucoup plus dans des spécificités ici, n'oubliez pas quand même qu'un agriculteur n'est pas totalement responsable de ce qu'il produit, de la façon dont il produit. Les agriculteurs américains sont liés aux exportations par Chicago et la Main Street, mais ils sont aussi liés au complexe agroalimentaire et à l'agro-business. Donc ici nous avons des grandes plaines agricoles qui sont un peu, quand on traverse ça en voiture on s'y embête un peu. Heureusement qu'il y a des petits bars rigolos avec des choses qui datent des années 50-60, parce que sinon ça serait horrible. Donc et enfin vous avez à l'ouest du Mississippi, vous avez une zone que moi je colorerais en vert un peu plus sombre pour la dissocier de la première. Donc c'est l'espace des rocheuses, des grands lacs, des grands parcs, excusez-moi, Yellowstone, Arches, le Grand Canyon. Donc ce sont ces espaces à la fois récréatifs, d'une agriculture d'élevage ou d'exploitation comme les pommes de terre dans l'Idaho. Ce sont aussi, et il faut pas l'oublier maintenant, c'est aussi le grand espace de l'exploitation de gaz de schiste aux États-Unis, bien qu'il soit de part et d'autre du Mississippi. C'est avec le nord-ouest des États-Unis, au nord-ouest des États-Unis avec l'Alaska, ce sont encore des terres qui sont vouées donc à la chasse. Ce sont des Eldorado pour les compagnies pétrolières ou de gaz naturel quand il s'agit des grandes plaines, des massifs, des rocheuses. Pour ce qui est de l'Alaska, outre que c'est la terre de Sarah Pauline, la chasseuse du Tea Party, c'est aussi une zone de pêche, c'est aussi un Eldorado pour les compagnies pétrolières et de gaz naturel ou de charbon. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet que les compagnies pétrolières se sont arrogé le droit depuis Donald Trump d'exploiter des nappes de pétrole dans des parcs naturels, ce qui était jusqu'à présent interdit, en tout cas sous l'administration Obama. À noter maintenant, et pour terminer, que cette frontière nord entre le Canada et les États-Unis, c'est pas une frontière fermée. Alors autant si j'avais un dessin à faire, je fermerais la frontière avec un grand trait rouge entre le Mexique et les États-Unis. Autant entre le Canada et les États-Unis, c'est une frontière qui est largement ouverte. On a des contrôles, c'est sûr. Si je suis français et que je passe en douce aux États-Unis, ça sera pas trop possible. Mais pour les Canadiens, c'est assez simple de passer d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, à un moment donné, le gouvernement canadien avait décidé de faire des tarifs exceptionnels sur le tabac pour limiter, bien sûr, la consommation de tabac. Et d'un coup ils ont dit ouais c'est super, les Canadiens fument de moins en moins, sauf les Canadiens, ils sont un peu comme les Alsaciens ou les Lorrains, c'est-à-dire que quand le tabac est à 10 €, ils partent de l'autre côté de la frontière en Allemagne ou en Luxembourg pour acheter des paquets de cigarettes moins chers. Là en l'occurrence, les Canadiens partaient aux États-Unis pour aller acheter du tabac. Alors chose moins tabagiste, on va dire, pour en parler, quand il y a un problème et que vous arrivez d'Europe et que vous arrivez en vol et que tout d'un coup il y a une grande tempête de neige et que vraiment aucun aéroport de New York ne peut vous accueillir votre avion, ils vous détournent vers un aéroport de secours, et l'aéroport de secours c'est l'aéroport de Montréal. Donc c'est une frontière, ne l'oubliez pas, plus ouverte. Voilà, chers élèves, chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral Manosque, ce que je pouvais vous raconter. Et nous nous quittons maintenant avec une chanson de Pete Seeger, What Did You Learn at School Today? Et nous nous retrouverons donc jeudi pour une émission sur la globalisation, veut-elle véritablement dire une uniformisation de la mondialisation. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon confinement et à bientôt. Au revoir.
What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine?
I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. That's what I learned in school today. That's what I learned in school.